Demain, c'est le 50e anniversaire de l'assassinat de Martin Luther King à l'âge de 39 ans. Ça s'est passé le 4 avril 1968, ça s'est passé à Memphis. Et 6 mois plus tard, c'était Robert Kennedy. Finalement, les trois bons, ceux qui incarnaient le changement aux États-Unis, bon, avaient été éliminés, chacun par des tireurs isolés. Pour nous parler justement de cet événement, cette date importante aussi, bon, on accueille notre spécialiste des États-Unis, aussi professeur, également spécialisé dans la culture et les religions et la politique, le professeur Norman Cornett. Bonjour, professeur Cornett.
Bonjour, monsieur Caillou. Merci pour cet extrait du sermon livré à Washington en 1963. D'ailleurs, c'était une marche massive et son discours, I have a dream, il faut souligner à quel point le rêve américain, the American dream, jusqu'à ce moment-là, ne comprenait pas les Noirs. C'est grâce à son pouvoir verbal comme orateur, et il faut souligner également l'oralité comme tradition chez les pasteurs noirs aux États-Unis, eh bien c'est Dr. Martin Luther King Jr. qui fait entrer les Noirs dans le rêve américain, d'où toute la pertinence de ce qu'il a dit. Et quand on parle du pouvoir, du verbe, au début était le verbe, comme dit la Bible, oui. Au début était la parole. Il faut également souligner que la veille de son assassinat, le 4 avril 1968, eh bien, le 3 avril, il a livré un autre sermon, « I've been to the mountaintop ». Et ça, c'était au Mason Temple à Memphis. Et dans ce sermon, monsieur Gayou, Dr. Martin Luther King Jr., prévoit son assassinat. Et évidemment, quand on parle du mountaintop, là, c'est carrément en parallèle à biblique que Moïse, chef du peuple élu, chef du peuple de Dieu, s'est rendu au sommet de la montagne et il a regardé au loin la terre promise, mais selon les écritures hébraïques, Moïse lui-même ne s'est jamais rendu dans la terre promise. Il a frayé, il a préparé le chemin. Donc, encore la force de cette tradition orale. Et je crois qu'il importe de souligner, quand on parle de Dr. Martin Luther King Jr., souvent on veut le situer dans un cadre politique. Or, il faut se souvenir que les chefs afro-américains venaient non pas des élus, non pas de l'arène politique, mais venaient de l'Église. C'était là où on formait des chefs.
Et c'était un pasteur baptiste, il faut le rappeler.
Tout à fait. Donc c'est en 1954 qu'il devient pasteur du Dexter Avenue Baptist Church à Montgomery, dans l'Alabama. Et c'est en tant que pasteur baptiste à Montgomery que l'année suivante, en 1955, on s'attendait, et c'est ça qui importait lors de ses études, et au contraire de bien des Afro-Américains dans les années 50, Dr. Martin Luther King Jr. a fait des études poussées. Il a fait des études avancées, même du deuxième cycle, un doctorat. Mais en 55, c'est lui qui mène le boycott des autobus à Montgomery, dans l'Alabama, suite à un incident avec Rosa Parks.
Et d'ailleurs, professeur Cornett, si on peut mettre un point de départ, dans la démarche de Martin Luther King, on pourrait dire que ce qu'il a vraiment propulsé à l'avant-scène, c'est cet incident avec Rosa Parks.
Oui, justement. Et ça, c'est un bon point, monsieur Gayou. Il était un fin stratège. La télévision avait commencé donc dans les années 50, je m'en souviens très bien, on le regardait en noir et blanc. Et puis, King avait comme politique, comme stratégie, on va faire des manifestations, on va dans l'espace public dans la mesure qu'on réussit à capter les médias. donc on réussit à faire les nouvelles du soir à la télévision. Donc, parce qu'il avait eu la meilleure expérience à Albany, en Géorgie, il y avait là, les chefs blancs savaient très bien si on avait une quelconque couverture médiatique, ils étaient dans des beaux draps, comme on dit au Québec. Or, King, il faisait très exprès, si on réussit à faire déplacer les grandes chaînes CBC, NBC, CBS, et à l'époque, il y en avait trois grands, et les journalistes, eh bien là, on réussit. Et c'est justement lors de ce boycott dont il est chef qu'il attire l'attention non seulement à Montgomery, non seulement dans l'Alabama, mais dans tous les États-Unis. Et il devient le personnage par excellence. Il incarne, il personnifie tout ce mouvement pour les droits civiques des Noirs.
Et en même temps, Norman Cornett, il descend jamais au niveau de la politique. Il demeure toujours au niveau de la justice, au niveau de l'humain, de l'être humain. C'est ce qui fait qu'il a jamais vraiment pu être associé à quelque mouvement politique que ce soit.
Oui, non, très bon point d'ailleurs. Et quand il a pris la décision de devenir pasteur et faire le doctorat en théologie systématique, il disait, j'estime que c'est en tant que pasteur, ouais, c'est dans le cadre de l'Église que moi je peux le mieux rendre service à l'humanité. Or, l'humanité ne connaît pas de ségrégation, c'est le mot opérateur à l'époque, ne connaît pas de barrière entre les partis politiques, entre les ethnies. Et c'est ça qui importe. Il se voulait rassembleur, mobiliser tous les gens pour les droits civiques. Et pour cause, parce qu'en 1957, il devient le premier président du Southern Christian Leadership Conference. Et de là, en tant que chef qui rassemble les rabbins juifs, qui rassemble les sœurs catholiques, qui rassemble les prêtres et d'autres, eh bien, il devient vraiment le fer de lance.
Et aussi les Blancs. C'est ça qui est assez fantastique du côté de Martin Luther King, c'est qu'il a réussi à aller chercher à mobiliser énormément de Blancs, beaucoup de jeunes derrière la cause.
Oui, oui, tout à fait. Et tout ça, c'est parce que ses racines sont dans ce qu'on appelle l'évangile social, le christianisme social. Et rappelons qu'on est à l'époque de Vatican II. Ouais. Et tous les espoirs sont permis. C'est qu'on va réaliser le royaume de Dieu sur terre, ici, maintenant. Et c'est ce qui fait que, et surtout avec cette politique de la non-violence, des manifestations non-violentes et du désobéissance civile, désobéissance civique. Et ça devient la force motrice pour le mouvement, et c'est grâce à pratiquement 9 ans, il a milité pour ses droits quand le 14 octobre 64, il reçoit le prix Nobel de la paix, mais il ne reste pas sur ses lauriers. L'année d'après, en 65, il organise des marches de Selma à Montgomery, et là encore, il met de l'avant. Et c'est grâce à ces interventions, de cette mobilisation dont il est le chef, qu'on va légiférer en 64 le Civil Rights Act, et l'année d'après, en 65, Voting Rights Act. Parce que qu'est-ce que ça donne d'avoir des droits civiques si on ne peut pas les exercer justement lors des votes, lors par les bulletins. Donc tout ça, ça fait que même s'il n'était pas politique, c'est sur cette base théologique qu'il est passé de la parole à l'action, et ça pour l'ensemble des États-Unis.
Est-ce qu'en 30 secondes, 50 ans plus tard, on a changé les lois, mais avec ce qui se passe présentement aux États-Unis, est-ce qu'il y a aussi des mentalités qui demeurent quand même à changer?
Oui. Toute cette question de violence, et je crois que c'est... Vous vous souvenez, on avait parlé de Charlottesville, oui, de ce qui s'est passé l'été dernier. L'idée qu'on va avoir recours à la violence pour cantonner les Noirs Eh bien, c'est pour cela que ça résonne si fort. Et je crois que, puisqu'on parle de March for Our Lives, qui s'est passé le week-end dernier à Washington, il faut se garder en tête à quel point de mobiliser des gens de façon non violente est tellement puissant dans la conscience collective américaine.
Et d'ailleurs, demain, on va célébrer ça, ce 50e anniversaire, et une autre qui nous rappelle effectivement que c'est un combat qui n'est jamais terminé, c'est le décès de Winnie Mandela, aussi une autre figure importante dans la lutte pour l'égalité. Professeur Norman Cornett, merci beaucoup, fort intéressant. On se reparle lundi prochain.
D'accord, merci à vous, M. Gagné.
Merci infiniment, c'était le professeur Norman Cornett. Au retour, on va se demander si on peut choisir d'être heureux. Ben oui, ben en tout cas, on va en discuter avec Sœur Marie-Paul Ross, qui est une grande spécialiste du bonheur. Et puis après, c'est Normand Forget qui nous parle de musique classique.